bonsoir.
Bonne
j'ai
année.
Couru. Bah Lyon, ça va être speed 2022. On écoute Imaginaire sur le 101.5 avec Pierre-Marie et Karine.
Première émission de l'année 2022.
Ouais, le Père Noël vous a gâté là. Il y a plein de livres que vous allez nous chroniquer là sur cette table.
Alors non, en fait ils ont déjà tous été chroniqués, mais on va rappeler pourquoi est-ce que il fallait les lire. Si jamais vous les avez pas vus, lus en 2021, bah il vous reste un an pour les lire et puis.
Mais justement, je proposais qu'on fasse un petit temps best of 2021 dans cette émission après vos chroniques et puis aussi un peu nos attentes. Moi, il y a des trucs que j'attends de pied ferme. Là, je suis hypé par des trucs qui vont sortir en 2022. Et puis après, on écoutera l'interview de Jean Barré.
Oui, réalisé aux Utopiales 2021, à l'occasion de la sortie de son dernier tome de la trilogie TM.
Trademark.
Exactement, et donc là, c'était sur la mort. Il vous en parlera bien mieux que moi.
Allez, on commence l'émission donc en musique avec ton premier choix musical, Caléo.
That she's good as gold. Yeah, and she'll leave you wanting more. Laying low, but I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try to get it right. Well, it's gonna keep you alive, keep you alive. Saying, who has smoking cigarettes? Who has smoking something else? Who has smoking cigarettes? Who has smoking something else? Ooh. Take it slow. Don't you go looking for trouble now. I don't know why I can't let go. That woman's got me rear naked choke. The mess I know. Woo! Hey gringo, whoa, you better stay out of Mexico. And I say whoa, hey, tranquilo amigo. I didn't know she was spoken for. Now I'm a lover, not a fighter. It's all bueno. Saying,
who has smoked a cigarette? Who has smoked something else? Who has smoked a cigarette? Who has smoked something else? Is it you?
Said I sold my soul to a woman in Mexico. A woman in Mexico.
Bon, apparemment, c'est reparti pour la bamboche en 2022.
Oui.
Et puis, il y en a, ils dansent déjà dans le studio de Radio G.
Alors non, on n'a pas le droit de danser, je te rappelle.
Ah oui, c'est vrai. Allez, on se met ton générique, ton jingle, là.
Musicalement parlant.
Mais tu danses même sur ton jingle.
Non, mais
ça va être festif, hein, 2022. Ah bah, là.
Totalement. Non, mais
toi, t'as passé des bonnes vacances. Hein.
Presque. J'en ai passé des très longues, on va dire ça comme ça. Non, je suis particulièrement joyeux puisque 2022 arrive et son lot de sorties arrive. Il y en a un que j'attends avec impatience qui s'appelle Le Soleil des Foulnes.
Des
Foulnes. Ouais, je sais.
C'est entre foule et faune.
P-H-A-U-L-N-E-S.
Ok.
Voilà. Et c'est de Thierry Dirolo aux éditions du Bélial qui arrivera. Thierry Dirolo qui avait fait Bang Green, qui était aussi sorti au Bélial et qui était un gros mastodonte de dark fantasy. Alors là, on va voir ce qu'il va faire en science-fiction. J'avoue que je suis intéressé et impatient. Mais 2021 a aussi eu son lot de très très bonnes surprises que j'attendais. Alors forcément, ce dont j'ai envie de parler, ce sont mes trois auteurs fétiches du moment, Jean-Laurent Del Socorro, Florian Soulas et Estelle Faye, dont vous m'avez certainement entendu déjà parler un nombre incalculable de fois.
Je crois qu'on les a tous interviewés et entendus dans cette même émission. Hein.
Et ils étaient présents à Imaginaire les 27 et 28 novembre dernier. Trois romans différents qui sont sortis en 2021, trois publics visés semblables, mais en même temps trois thèmes abordés totalement différents et une façon d'écrire totalement différente aussi. On va commencer par Jean-Laurent Del Socorro, je vous rappelle Du roi, je serai l'assassin, qui se situait dans le même univers que Royaume de vent et de colère. Nous en sommes donc à la Renaissance et cette fois-ci c'est les révolutions mauresques en Espagne. On va suivre donc la genèse et la jeunesse du personnage, d'un des personnages secondaires de Royaume de Vent et de Colère. C'est Sinan. Alors Sinan, c'est un musulman qui est converti de force puisque à cette époque-là, en Espagne, on convertit les musulmans au catholicisme. C'est la fin du califat de Grenade. Et on va suivre ce personnage-là qui est tiraillé entre son éducation musulmane qu'il faut cacher, sa scolarité qu'il va passer à Montpellier en tant que médecin dans une habitation chez l'habitant qui est juif. Et puis il va passer quelques années avec les protestants lors des guerres de religion. Très intéressant, très très immersif, et là où la réalité historique s'efface, c'est par rapport aux questions sociales aujourd'hui, l'auteur ayant préféré transposer les questions sociales et on va dire l'intégration de nos sociétés aujourd'hui aux questions telles que la sexualité, l'homosexualité, les religions, les choses comme ça, dans cette fresque historique. Tous les événements historiques dont vous entendez parler, tous les bâtiments dont vous entendez parler dans ce roman sont réels, seuls les personnages ne le sont pas, et certaines des interactions du coup ne le sont pas. Il ne faut pas oublier que contrairement à ce qu'on croit, le Moyen-Âge et la Renaissance sont deux périodes où les gens bougent énormément. Ça s'est arrêté à partir à peu près le siècle des Lumières, les gens commençaient à rester chez eux, ne bougeaient plus. Avant, trois quarts des étudiants de Montpellier n'étaient pas français. Voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que ça a rejoint ce que j'avais vu dans mes études et puis parce que c'est beau en fait, les descriptions sont juste belles.
Est-ce qu'il y a un petit peu de fantastique quand même, ou c'est vraiment du roman historique pur?
Oui, il y a du fantastique, mais c'est plus du folklore que du fantastique.
D'accord.
Il y a des choses dont l'auteur tait la réalité ou pas, et on va laisser un peu de superstition ou pas, ou de fantastique. Est-ce que les tatouages ENA protègent réellement les gens ou pas? C'est une question. On saute à pieds joints dans le fantastique avec Widjigo d'Estelle Faye, qu'elle a sorti pour Halloween, parce qu'il y a dedans, c'est une histoire d'horreur. Ça se passe cette fois-ci en Terre-Neuve. Au XVIIIe siècle, en 1793, on va suivre un jeune aristocrate exilé de force par son père, déshérité, qui se retrouve sans le sou, à picoler comme un trou. Et on lui dit, si jamais tu veux qu'on efface tes dettes, tu vas devoir participer à une expédition en Terre-Neuve pour retrouver une expédition qui a réellement existé, menée par un Français, alors qu'à cette époque-là, en Terre-Neuve, ce sont les Anglais qui ont récupéré toute cette partie-là et qui chassent progressivement les Français qui étaient Québécois et qui y étaient. Donc on va suivre ce personnage-là qui part en bateau, à la fin du troisième chapitre, il part en bateau pour rejoindre les dernières traces de l'expédition qu'il est censé rechercher. Sauf que il y a une tempête, le bateau s'échoue, il ne reste que 10 survivants. Et les morts commencent à s'accumuler dans le groupe. Alors, est-ce qu'il y a une bête qui les chasse, ou est-ce que c'est un des membres du groupe qui décide de faire vengeance? Et pourquoi? En parallèle de ça, en fait, on va suivre ce même personnage qui est donc le jeune noble désargenté, mais pendant la Révolution française. Il est chez lui, en Bretagne, et il est en train de se faire arrêter par les gardes bleus, donc les gardes républicains, qui vont l'emmener à l'échafaud. Sauf que c'est une nuit, sur un vieux château en Bretagne. Il n'y a plus accès au continent, puisque nous sommes sur une des îles de Bretagne. Et donc, pendant toute la nuit, ce vieil aristocrate, maintenant vieillissant, va raconter à ses gardes tout ce qui lui est arrivé en Terre-Neuve. Donc, on va suivre ce roman sur deux trames, deux années différentes, quand il est vieux et quand il est jeune. Extrêmement intéressant, très immersif, et en même temps, on frissonne.
Encore un peu du roman historique.
Oui, mais alors là, la réalité historique n'est que du décor.
Ah bon?
Les implications politiques et les questionnements sont très intéressants, mais c'est vraiment du décor.
Bon, connaissant Estelle Vaille, quand même, ça repose sur des bases solides, parce qu'on avait fait une table ronde là-dessus à l'Angers Geek Fest.
De l'histoire dedans, c'est la réalité portée aux vêtements et aux habitudes des gens.
Okay.
On est vraiment au beau milieu de la forêt, sur un littoral en Terre-Neuve, assailli par des ours et autres joyeusetés sauvages. Vraiment, la réalité historique, elle est dans les pensées de l'aristocrate, mais sinon, il n'y a aucun intérêt.
D'accord. C'est chez Albin Michel Imaginaire, je reconnais leur couverture. Donc, tu redis le titre, oui.
Widjigo. Alors, Widjigo, c'est une créature qu'on entend, c'est
comme le Wendigo.
Exactement, parce que Widjigo, c'est le nom à la manque de la peuplade des Indiens qui étaient présents.
Bon, un peu du folk horror, alors on peut dire, parce que moi, c'est un truc que j'attends, moi, pour 2022, s'il y a un gros coffret qui va sortir chez Séverine, ça vient juste de sortir, 15 DVD, en fait, avec 20 films de ce qu'on appelle le folk horror, donc c'est-à-dire des films plutôt d'épouvante, mais qui se passent en milieu rural, un peu avec l'histoire de légende et de paganisme.
Voilà. Ça rejoint un petit peu les sorcières de Salem, tout ça.
Ouais, alors et on retrouve beaucoup de films, ça va des années 50 jusqu'à des trucs beaucoup plus récents, comme un film de Ben Wheatley, non, je me rappelle, Field, moi je me rappelle plus du titre, enfin bref, voilà. Et donc ça traverse, on va dire, il y a 6 décennies de cinéma fantastique, et notamment pas mal de vieux films européens que je connaissais pas du tout, donc... Et avec un documentaire aussi, des CD, de BO et tout. Enfin bref, un gros truc bien. C'est quand même 200€ le coffret DVD, quoi. Mais c'est bientôt mon anniversaire.
C'est pour collectionneur, c'est ça.
Ouais, exactement.
Et dernier livre, pas des moindres, puisque pour moi, c'est le meilleur que j'ai lu, et de très très loin. Florian Soulas, Les Oubliés de Lama. Science-fiction pure et dure. Ça se passe sur la colonisation du système solaire. On a colonisé tout, les planètes, les satellites, tout ce qui est à peu près
colonisable.
Voilà. Et même si jamais on avait du mal à les coloniser, on peut terraformer, ça pose pas de problème. Il n'en reste plus qu'une. Une seule résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, ce n'est pas Gaulois, c'est Jupiter.
Donc c'est du planète opéra.
C'est du planète opéra, ouais. Avec beaucoup, beaucoup de art science dedans.
Ouais,
puisque, pour ceux qui ne le savent pas encore, Florian Soulas est une scientifique spécialisée dans l'énergie et les réactions des matériaux vis-à-vis de l'énergie. Et donc, elle a transposé son sujet de spécialité dans la conquête spatiale. Tout ce qu'elle raconte par rapport à ça est exact. Vous pouvez aller lire sa thèse, si jamais ça vous amuse. Ce n'est pas obligatoire, elle a fait très attention à ce que ça ne soit clairement pas obligatoire et que ça ne soit pas trop pointu, puisque ça s'adresse essentiellement à de l'adolescent. Et c'est vraiment extraordinaire, on y parle.
Ouais, ça va jusqu'à quel âge l'adolescence? J'ai le droit ou pas? C'est bon, je suis la limite, quoi.
S'il y a des catégories, si les catégories étaient vraiment hermétiques, non, tu n'y aurais plus pas le droit, tu es censé être mature et posé.
Ok.
Voilà.
Bon, on passe aux chroniques de Karine. T'es prête?
Allez.
Envoie du jingle. Tiens, bah, c'est un petit peu fort.
Donc je reviens pour vous présenter le roman La descente ou la chute de Basile Sandre chez les Moutons électriques. Basile Sandre nous emmène au cœur d'un voyage, celui que va devoir faire Lou, car il est banni de son village et il va avoir un choix à faire, celui de la descente ou de la chute. Et à partir de ce moment, on suit le récit de son parcours à travers un gouffre, amenant bien des surprises et des questionnements. Mais au travers de flashbacks, on découvrira un peu plus de détails quant à la vie de Lou. Les personnages secondaires feront très vite leur apparition. Et l'on découvrira notamment Gaston.
Ouais, vas-y, entre. Ah. Passe le livre. Hein.
Gaston, son ami de longue date, Rosemonde, Marlène, Auria, tous ont une certaine importance pour le voyage de Lou. Je peux malheureusement pas vous résumer davantage ce roman car il est vraiment atypique tant dans le fond que dans la forme. On est directement immergé dans un environnement post-apocalyptique. La population vit sur des décombres, les vestiges d'une société qui amène les ferrailleurs à descendre dans ces derniers pour y trouver un peu de bonheur pour les gens qui vivent à la surface. Et en parallèle de ce contexte que met en place l'auteur, il nous pousse à nous questionner sur beaucoup de choses selon la lecture que l'on fait du roman. Puisqu'il traite potentiellement, justement, selon les lectures, de la dépression, la déshumanisation, la mémoire, le travail, les démons intérieurs, le bonheur, la quête de soi et l'importance de créer du lien avec les autres. Et tout ça avec une plume envoûtante, poétique, qui laisse extrêmement songeur. Basile Sandre explore à merveille les littératures de l'imaginaire avec ce roman de fantasy post-apocalyptique qui se révèle très enrichissant et extrêmement riche de sens. Un roman donc à découvrir et je vous invite de vous laisser porter par sa plume dans ces deux romans, La descente ou la chute donc, et Zita Dark, tome 1, Les enfants du béton, publié, il me semble, si je dis pas de bêtises, tous les deux en 2021. Et maintenant, une chanson du groupe Trivium, Among the Shadow on the Stone, sur Radio G.
Follow it.
Trivium, donc, pour nous réveiller hein, sur le 101.5. Merci, Karine.
De rien, avec plaisir.
Est-ce que tu veux bien essayer de redonner le titre du morceau?
Non.
J'ai pas saisi.
Non, clairement.
Amongst the Shadows and the Stones. Voilà. Bon, alors, on parle de 2021 ou de 2022, là, avant l'interview de Jean Barré dans 5 minutes sur le 101.5.
Alors, on parle pas de 2022. Pas du tout, de mémoire.
Toi,
par contre, on parle un petit peu de 2021, année de sortie de son Mort TM, et puis on parle de ce qu'il avait sorti avant Jean Barré.
Ah non, mais je vous demandais si vous aviez des choses à dire, des trucs qui vous...
Si je vous conseille le livre chez Albin Michel, on vient d'en discuter en plus.
Ah oui, alors chez Albin Michel Imaginaire, toi, Karine, t'attends la sortie de...
Oui, j'attends la sortie de Afterland.
Justement, de Lorraine
Buck.
Qui
se passe en pleine pandémie, en fait, 3 ans après une pandémie, comme quoi. Les sujets actuels.
Est-ce que c'est aussi du post-apo?
Ah bah, ça m'a tout l'air.
Ah ouais, d'accord.
Moi, c'est Les Temps Ultra Modernes de Laurent Genefort chez Albin Michel qui est sorti il y a 6 jours, une semaine.
Ok. Bon, 2021, bah si, moi, il y a eu l'apparition de la collection Carnage, qui reprend donc le flambeau de Trash, qui reprenait déjà celui de Gore, donc de la littérature pour adultes consentants. Hein, elles le disent même vraiment avec tous les potards. Dans le rouge, il y a 5 tomes qui sont sortis et on aura l'interview. On va essayer de choper l'éditeur pour une interview au téléphone dans notre prochaine émission dans 2 semaines, Jérémy Grima. Voilà, donc ça a été un projet éditorial qui m'a fait plaisir, moi, un retour à une petite collection comme ça de romans poche assez courts et très in your face hein. Voilà, avec des jolies couvertures. J'ai mangé le nom, il était en GBD en plus, enfin bref, voilà. Bon, 2021, moi, en littérature, de toute façon, je me suis fait une année un petit peu revival du 20e siècle, donc il n'y a pas eu de grosse révélation. Il y a le jeu de rôle monstre, quand même, chez Black Book Éditions, moi, qui m'a bien hypé toute l'année. Bon, donc c'est l'adaptation, ça, c'est pas des grosses nouveautés non plus, des bandes dessinées de Johan Sfar, on va dire, ça reprend un peu Grand Vampire et puis Aspirine. Et qui ont été adaptés donc par Black Book Edition à leur système de jeu chronique oublié. Mais ça donne vraiment quelque chose de très particulier. Enfin, c'est de l'urban fantasy humoristique, bien bien barré. Donc, qui raconte, enfin, la première campagne qui est sortie raconte la. Vous êtes une colocation de monstres en fait qui doivent se cacher des humains quand même dans Paris. Et puis voilà, il vous arrive pas mal d'aventures.
Si, dans les choses que j'ai bien aimées en 2021 et qui se poursuivent en 2022, c'est les monographies. On avait eu Lovecraft qui était sorti, juste à la fin de l'année, Ursula Le Guin qui était sortie, qui présentait tout son œuvre et puis les thèmes qu'il apportait. Alors, c'est pas un roman, c'est quasiment une encyclopédie. Mmh. Et là, il va sortir, dans cette collection-là, le livre sur Alien.
QSF. Donc,
Financement participatif. Ouais. Et puis surtout, il va y avoir Paria 2 aussi. Chez,
comment tu dis?
Paria 2, comme
oui.
De Tony Emeryau et Boris Bezos.
Série en 4 tomes, hein, on n'a pas fini d'en parler. Ok, bon, voilà. On passe à l'interview de Jean Barré, donc.
Bah, si tu veux, je peux te dire aussi mes plus gros coups de cœur de l'année 2021.
Ouais.
Avec Market Force, X-Day.
Comment tu dis?
Dystopia. X-Day. C'est de Damien Snyder. C'était une pépite assez atypique.
C'était chez SF.
Aussi, ouais. D'accord.
Que j'ai chroniqué. Il y a eu Le Crépuscule de Briahus qui m'a énormément marqué aussi. Et le livre Écorné de ma vie de Lucius Shepard. Voilà.
Ok. Donc, on va passer à l'interview de Jean Barré dans Imaginaire sur 101.5 qu'on avait donc enregistré aux Utopiales au novembre dernier.
L'association Imaginaire, toujours aux Utopiales à Nantes, et nous sommes en présence de Jean Barré. Alors, Jean Barré, c'est quelqu'un d'assez étonnant puisque tu viens jury cinéma et tu es invité auteur. La première chose qu'on voit sur ta biographie, c'est que tu es docteur en droit avant d'être auteur. Ce qui fait quand même 3 domaines totalement différents, le cinéma, le droit et la littérature. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ?
Alors bonjour à tous déjà, et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Alors ça se fait dans le temps, c'est pas en simultané. J'ai commencé par faire la fac de droit avant d'écrire, même si j'ai écrit assez tôt, ça fait longtemps que j'écris, donc ça va faire presque 25 ans maintenant que j'écris, mais j'ai dû commencer à écrire au moment où j'ai commencé la thèse, donc voilà, ça s'est fait successivement, et ça donne une impression comme ça de domaines très étanches et très différents, alors qu'ils sont quand même relativement liés.
Très bien. Sur ta biographie, puisque je m'en suis inspiré pour pouvoir préparer cette interview, on voit que tu as un domaine de prédilection qui n'a rien à voir avec ces trois domaines très intellectuels, le culturisme.
Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, effectivement, ça aussi, ça fait très longtemps que j'en fais. C'est un peu particulier parce que c'est pas une activité qui est forcément extrêmement populaire, même si le fitness l'est depuis maintenant quand même pas mal d'années. Le culturisme en lui-même l'est moins. Il y a plein de raisons, probablement et principalement parce que j'ai été adolescent dans les années 80 et que j'ai été marqué par un peu trop par les films de Schwarzenegger et Stallone, certainement. Il s'avère que aussi, encore plus, de façon encore plus surprenante, mon père en faisait, parce que c'était encore plus, on remonte dans le temps, et moins c'était une activité très, très prisée, ou en tout cas très populaire. Et puis, c'est aussi un sport qui me plaît beaucoup parce que il a une vertu immense, c'est qu'on progresse peu, mais sur le long terme. On peut pas, sauf à prendre des produits anabolisants où là tout va très vite, sinon on est obligé de passer énormément de temps pour progresser. Et en effet, j'ai dû prendre peut-être, je sais pas, une bonne vingtaine de kilos de muscles, 22-25 kilos, rien que sur ces 15 dernières années, ce qui fait beaucoup et peu aussi, puisqu'on voit que ça fait même pas 1,5 kg par an. Donc, et cette vertu pour moi est très importante parce que ça signifie que le temps joue pour moi. Je progresse, je vieillis pas, je progresse. C'est une fiction, j'en ai conscience, j'en ai besoin. C'est une fiction dont j'ai besoin.
Est-ce que tu réfléchis à ce que tu écris pendant que tu fais du culturisme, ou tu cloisonnes chacune de tes activités? On me dit que tu as un rituel pour écrire.
C'est vrai. Alors non, je cloisonne les activités. Quand je fais du sport, je fais vraiment du sport, et puis je le fais de façon très, très intense, très forte, très poussée, donc je peux vraiment pas faire autre chose que ça. En revanche, oui, j'ai un rituel, j'écris tous les jours, une demi-heure, peut-être une heure si j'ai de la chance, ou au moins une demi-heure. Alors tous les jours possible, il y a des jours où je peux pas, mais on a toujours une demi-heure devant soi quand même dans la journée, souvent en tout cas. Et ça fait finalement beaucoup, genre une demi-heure en général, je fais une page à 4, 300 jours, 300 pages à 4, ça fait déjà quand même un beau roman, 65 autres jours pour le retravailler, y réfléchir, le repaufiner, ça me fait bon an mal an, un gros roman par an, deux petits ou un gros. Mais c'est effectivement un rituel très important chez moi.
Tu parles de feuille A4, tu écris avec un stylo?
Non, je parle de feuille A4 parce que c'est une... Normalement, on parle en signe d'ailleurs, oui. Mais c'est une façon d'illustrer. Non, j'écris directement dans le cloud, j'écris sur, en général, ou Google Drive ou OneDrive. Ces derniers temps, plutôt Google Drive, parce que OneDrive a passé un certain volume de pages, me pose des problèmes. Mais j'écris directement dans le cloud, comme ça, j'ai accès partout, et avec n'importe quel appareil, ce qui me permet d'être autonome sur ma production.
On va rentrer dans le vif du sujet, qui est ta trilogie, donc Bonheur, Vie et Mort TM, mais tu n'as pas écrit que ça. Parmi tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment marqué, qui est vraiment important pour toi?
Oui, c'est vrai que j'ai commencé par faire de la science-fiction et de l'heroic fantasy, des romans que j'ai même pas proposé à des éditeurs en fait. Et puis j'ai eu une grande phase d'anticipation sociale, c'est-à-dire de littérature qu'on retrouve chez Palahniuk et Bret Easton Ellis, qui finalement sont assez proches de ce que je fais maintenant, puisqu'il s'agit de critiquer la réalité sociale actuelle. Et ces livres-là sont très importants pour moi parce qu'ils sont représentatifs de la... ou une façon d'illustrer la violence sociale au sens large. Et puis ensuite, je me suis mis à la SF et c'est là que j'ai trouvé un agent et c'est là que j'ai trouvé un éditeur. Mais finalement, ma démarche SF est la même que celle que j'avais dans l'anticipation sociale. Et donc, ça reste un même élan. tous ces livres-là ont compté pour moi. Est-ce que j'en ai un en particulier j'en avais écrit un qui s'appelle Frontières invisibles et qui a vraiment, oui, beaucoup compté pour moi, mm-hmm. parce que c'était le premier que j'ai écrit de cette veine-là. Et puis je pense qu'il y a énormément de choses qui me touchent vraiment en tant qu'auteur, pardon, dans cette fiction-là, qui est peut-être pas si fictionnelle d'ailleurs, parce que malheureusement, comme dans les romans de Palahniuk ou de Bret Easton Ellis, il y a tellement de vrai aussi dans ce qu'on vit que, bon, voilà. Mais ouais, j'ai eu ces trois phases et je suis finalement revenu à mes premiers amours, la SF, oui.
Tu as parlé d'un agent littéraire, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore l'habitude de voir trop en France. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ?
Ah oui, volontiers. C'est vrai que les éditeurs français sont très hostiles aux agents. Il y en a, hein, il y en a quand même en France, mais évidemment infiniment moins que dans les pays anglo-saxons. Mm-hmm. Les éditeurs sont très hostiles. Je crois que l'auteur a un positionnement très compliqué en France. Et beaucoup d'auteurs estiment que finalement il y a tout un écosystème qui vit sur leur œuvre et en définitive sont les derniers servis par leur propre travail. Et c'est vrai que l'agent est là pour ça, il est là pour normalement faire pression sur les éditeurs pour que le travail de l'auteur soit valorisé. Mmh. Moi c'est un peu particulier, je n'avais pas d'éditeur, j'avais pas d'agent, donc il se trouve que j'ai envoyé un de mes livres de ma trilogie, qui est celui qui est devenu VTM, mmh. à un professeur de philo, Danny Robert Dufour, qui ensuite m'a fait la préface de Bonheur TM, puisqu'on a sorti Bonheur TM, que j'avais écrit en deuxième, en premier. Et ça lui a plu, et comme c'est un monsieur qui est très publié, Danny Robert Dufour, il connaissait donc l'agence Rubinstein, et Olivier Rubinstein est un ancien dirigeant des éditions de Noël. Mm-hmm. Il a dirigé ça pendant 15 ans, il en est parti, et ensuite il a installé son agence, et ça lui a plu aussi, donc il m'a pris dans son écurie, on va dire, et c'est comme ça qu'ensuite il m'a trouvé un éditeur, etc. Donc c'est vrai que les agents, on n'y pense pas trop en France, je pense qu'il faut au contraire les démarcher, parce qu'ils représentent une force un peu de frappe, avec l'inconvénient que je disais que beaucoup d'éditeurs s'en méfient, donc je me demande s'il n'y a pas des éditeurs qui refusent un peu par principe, ouais, un auteur qui serait entre les mains d'un agent. Mais enfin, il faut voir que les agents ont un réseau, puisque ce ne sont pas des gens qui se parachutent comme ça agents pour le plaisir. Ils viennent de l'univers littéraire, ils ont un réseau, ils ont des contacts, et surtout ils ont une connaissance de ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans le monde de l'édition, ce qui intéresse quand même les éditeurs évidemment, et ils sont donc en mesure d'instaurer une confiance aussi entre l'auteur et l'éditeur, parce que si un agent propose un livre, en général c'est qu'il a déjà fait un premier écrémage et il pense que ça peut marcher. D'accord. Donc il y en a quand même quelques-uns, je crois même qu'il y a une espèce de, ou pas une fédération, mais enfin une espèce de groupement des agents littéraires. Je pense qu'il faut encourager les auteurs à les démarcher, ça peut pas nuire.
Tu as parlé un petit peu de Bonheur et de Vie, donc qui est ta trilogie trademark, qui est une trilogie sans être une trilogie. Nous avons donc trois romans qui ne se suivent pas, qui sont indépendants, qui regroupent à l'intérieur plusieurs nouvelles qui sont plutôt indépendantes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Ces trois univers différents. Le but de cette trilogie, c'était de pouvoir mettre en scène un grand questionnement. Le sens de la vie, grand, très grand questionnement, très large, trop large peut-être, mais voilà, quand même, plus ou moins, normalement, à un moment donné de notre vie ou un autre, on se retrouve un peu confronté à cette question. Question peut-être qui touche les sociétés déjà quand même un peu occidentales, un peu riches, parce que quand on crève de faim ou qu'on doit se battre pour sa survie, le sens de la vie, c'est pas une priorité immédiate. Mais dès qu'on sort de cette problématique-là très grave et que on vit dans des sociétés qui nous assurent un minimum de confort, ou en tout cas un minimum de capacité de survie, mm-hmm. On peut se poser la question de à quoi sert tout ça. Et en dehors de cette question, ce qui m'intéressait, c'était les trois réponses que je trouve sont véhiculées par nos sociétés, qui sont... Donc si je cherche un sens à ma vie, qu'est-ce que c'est que l'expérience humaine ? Est-ce que tout ça a un sens ? J'ai quoi comme réponse aujourd'hui ? J'ai un grand courant, c'est le consumérisme à outrance, pour diverses raisons, et ça c'est ce que je mets en scène dans l'univers de Bonheur TM, La raison principale, c'est que toutes nos sociétés modernes sont construites sur la notion de progrès matériel. Depuis qu'on est sorti de l'ornière agricole, si on peut appeler ça une ornière, en tout cas, que les sociétés ne sont plus restées à 98% agricoles, qu'on est arrivé dans une société industrielle, le mythe qu'on nous a rendu, c'est celui du progrès. On nous a dit, bon, ben voilà, vous allez travailler, certes, mais tout ça a un sens parce qu'on va progresser. Et pour progresser, il faut une société de consommation, et pour avoir une société de consommation, il faut des consommateurs. Et pour avoir des consommateurs, il faut avoir des gens qui n'hésitent pas à se lâcher, entre guillemets, à exprimer toutes leurs pulsions, parce que le marché répondra à ces pulsions. Donc on a une première solution, c'est la consommation et l'hyperconsommation, le citoyen consommateur roi, mm-hmm. en fait peut-être aliéné, mais ça c'est un débat, et voilà, et c'est ce qui est mis en scène dans Bonheur. Et une autre réponse qui peut être, c'est quoi le sens de la vie? Je me tourne vers une autre personne qui va me dire ce que c'est. C'est une tentation totalitaire, la tentation du chef. Mm-hmm. C'est la tentation, j'ai des problèmes, je suis mal dans ma vie, je comprends pas ce qui se passe. Comment résoudre ça? Quelqu'un va me dire, t'inquiète pas, suis-moi, écoute-moi, et tu vas voir avec moi, ça sera le bonheur, etc. Ça, c'est la tentation totalitaire, c'est mis en scène par VTM, mm-hmm. sauf que dans VTM, ce sont des algorithmes qui dirigent les hommes, mais c'est cette tentation-là. Puis troisième tentation, bien sûr, tentation religieuse. C'est pas un homme, cette fois-ci, c'est un surhomme, c'est Dieu, c'est un messie qui on veut, qui va me dire, le sens de la vie, c'est ça, t'inquiète pas, fais le rituel comme je te l'ai dit et tu verras, ça va bien se passer. Surtout après ta mort, tu seras bien traité si tu as fait ce qu'il fallait. Ces trois courants peuvent se comprendre, ils ont des dérives chacun, et ce sont ces dérives qu'on retrouve aussi, je pense, dans nos sociétés. Qui sont mises en scène chaque fois chacun dans un roman particulier. Ouais. Bonheur TM consommation, VTM on va dire totalitarisme, mort TM la religion.
Donc en fait, si je résume bien, lorsque tu poses la question du sens de la vie, tes romans ne répondent pas au sens de la vie, mais aux dérives qu'il y a sur le sens de la vie.
C'est ça. Et alors, si on doit avoir un sens vraiment, je dirais qu'il y a un non-sens de la vie. Si je devais vraiment donner moi, je le mets pas dans mes romans, mais si je veux vraiment le donner moi, je dirais oui, c'est un non-sens de la vie. Alors de temps en temps, je vois que flotte sur Internet le fait que je suis qualifié aussi de nihiliste, mm-hmm. ce qui est un très grand mot. Et je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tout cas, oui, je pense que il y a un non-sens de la vie, on peut apparenter ça à du nihilisme, et qu'il faut avoir la force morale de l'accepter, ce qui est peut-être impossible d'ailleurs. C'est une très grande douleur de se dire qu'il n'y a eu rien avant et qu'il n'y aura rien après, et que l'expérience humaine est le produit de Dieu sait quoi, mais c'est le cas de le dire, mais en tout cas certainement pas une volonté particulière. Mmh. Et voilà, si j'avais un message, ça serait celui-là, mais c'est pas celui des livres. Celui des livres, effectivement, c'est la dérive que cette recherche effrénée parfois de sens donne.
Ça va être très nietzschien tout ça. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de philosophe?
Je me suis... Alors Nietzsche, je crois, est très beaucoup plus complexe à maîtriser que ce qu'on peut lire de ci, de là. Donc j'irais pas dire que je me range dans son droit fil, parce que je pense que ça serait une hérésie. Un philosophe que je suis beaucoup, mais pas directement sur ces questions-là, c'est Dany Robert Dufour, justement, parce qu'il traite principalement, lui, des questions de l'hubris, de la pléonexie, c'est-à-dire le fait d'en vouloir toujours plus, les racines. En fait, il essaie de révéler les racines programmatiques de notre société qui nous amènent aujourd'hui dans l'hyperconsommation et le délire consumériste. Mm-hmm. Ça, lui, je le suis beaucoup. Après, sur une figure, on va dire, pessimiste ou nihiliste, non, c'est simplement, je me dis, je ne sais pas si c'est nietzschéen, peut-être, mais je me dis que, en fait, effectivement, tout dépend de la façon dont on voit l'après-vie, parce que ça reste fondamental, la mort, donc reste un point de vue fondamental. Heureusement, on n'y pense pas tous les jours, mais il n'empêche que ça reste fondamental. Et on ne sait pas, bien sûr, parce qu'il n'y a personne qui peut dire « je sais que c'est ça ou que ce n'est pas ça mmh. ». En revanche, si on considère que tout est une histoire, l'histoire du « il n'y a rien » est la plus dure. Et souvent, il s'avère que, en tout cas, c'est peut-être une partie de mon éducation qui me pousse à ça, que la solution la plus dure, la plus difficile, est probablement celle qu'il faut accepter, parce qu'on a, quand c'est trop facile, quand c'est trop rassurant, quand on a trop d'intérêt à aller dans un sens, c'est probablement pas le bon sens. Voilà. Donc c'est plus facile de dire « il y a quelque chose », que de dire il n'y a rien. Donc j'ai tendance à dire, forçons-nous à penser qu'il n'y a rien, acceptons-le et essayons de gérer ça intelligemment au lieu de le fuir.
C'est un petit peu la théorie du pessimiste. Si jamais tu es pessimiste, tu ne peux avoir que des bonnes surprises.
Ah oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis surtout, non, mais c'est surtout cette idée que peut-être la bonne approche, c'est de s'extraire. Et moi, personnellement, j'ai tout intérêt à penser qu'il y a quelque chose après la vie. Bien sûr, comme tout le monde, j'aimerais évidemment que tous les gens que j'aime, je puisse les retrouver tôt ou tard, qu'on soit tous heureux au paradis. Et bon, là, je donne une vision extrêmement simpliste, mais ou la réincarnation, ou tout ce qu'on veut, j'ai tout intérêt à ça. J'ai intérêt à ce que mon essence se poursuive après ma mort, évidemment. Mais justement, comme j'y ai intérêt, est-ce que c'est pas un peu, du coup, trop facile? Et c'est un habillage d'un désir quasi, j'allais dire, presque enfantin, enfin, qui remonte à la croyance au Père Noël ou au lapin de Pâques ou à la petite souris. On l'a rendu adulte avec Dieu et les anges et tout ce qu'on veut ou toute structure qu'on ait envie de penser. Est-ce que finalement, c'est pas trop simple? Et si c'est trop simple ou trop... ça répond trop à un besoin, est-ce qu'il ne faut pas se dire, ben non, ça ne peut pas être ça du coup. Acceptons que si on ne sait pas, il faut partir du principe que, ben non, il n'y a rien. Et évidemment, ça, c'est pas agréable.
On parle depuis tout à l'heure de philosophie, donc le totalitarisme, le consumérisme et la religion. Et la politique dans tout ça?
Ben, la politique, ça peut être vu comme... c'est une grande question, ça. Je vais y répondre en plusieurs fois, en plusieurs morceaux. La politique, ça peut être vu comme une façon d'organiser la cité. La politique, la police. Comment organiser la cité en fonction de ces considérations? Est-ce que j'organise la cité parce que mon projet, c'est justement le progrès? Donc, je vais faire un certain type de lois qui vont aller dans ce sens-là. Est-ce que je l'organise en totalitaire? Est-ce que je l'organise en demandant à ce qu'on respecte les lois de Dieu, enfin, ou les préceptes de Dieu? Mais la vraie grande question derrière tout ça, c'est quel devrait être un discours politique? Et on m'a souvent demandé, est-ce que je faisais de la politique? Alors je dis oui et non. Alors avant je disais non, maintenant je dis oui et non. Je me suis nuancé. Non, parce que pour moi, la politique, c'est... alors c'est peut-être la politique ou le politique, mais c'est dire, voilà, j'ai une solution, voilà le programme de société que je vous propose. Dans l'année d'élection qui s'ouvre là, on va en manger de ça, on en mange déjà. Voilà ce que je vous propose, sous-entendu pour que ça aille mieux, sous-entendu pour qu'on soit tous heureux, ou en tout cas la catégorie de gens à laquelle l'homme politique s'adresse. Vous allez être heureux si vous me suivez, et si vous me suivez, voilà ce que je vous propose. C'est pas ma démarche, mais mes bouquins ne disent pas, si on allait vers ça, alors ça serait la solution. Je l'ai pas, la solution. En revanche, c'est aussi de la politique. Oui, dommage. Et d'ailleurs, si je l'avais, peut-être que je monterais un parti. Et voilà, au lieu d'écrire la SF, je ferais mieux de monter un parti. Et à l'inverse, c'est aussi de la politique ce que je fais, parce que bah, forcément, je pose la question de l'organisation de la cité et de l'organisation, donc forcément politique, entre les gens. Mais là aussi, mon côté pessimiste me fait dire que on est face à une... Je fais une petite parenthèse, mais on est face à un grand bouleversement là récemment, enfin ces dernières années. Il y a un changement de société, quand même, de mentalité dans la société, je parle des sociétés occidentales bien sûr, qui s'est instauré. Et le politique a perdu de vue complètement le projet. Pour moi, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ère industrielle, on était très tourné sur les sociétés agricoles, comme je disais, mais on était très tourné sur un ordre quand même divin ou inspiré de Dieu. Mmh. On avait une classification sociale matinée de réflexion théologique. À partir de la société industrielle, on nous a vendu systématiquement la notion du progrès. On nous a dit, en progrès matériel égalera progrès spirituel, égalera bonheur à terme. Mmh. Et beaucoup de générations ont certainement cru à ça, jusqu'à peu. On se disait, oui, ça ira mieux, et puis mes enfants seront mieux que moi, et leurs enfants seront mieux que eux, etc. Donc on pensait qu'il y avait vraiment une vertu de progrès. Et pendant un temps, ça a été vrai, je pense. Effectivement, le progrès matériel a libéré énormément de gens, et ça a contribué à un bonheur, c'est un grand mot, mais en tout cas, une organisation bien meilleure et bien plus libre que celle qu'on avait avant. Sauf qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une limite. On se rend compte que le progrès a un coût, alors déjà humain, bien sûr, très fort, mais aussi planétaire et écologique, dramatique, un coût dramatique. Sauf que ce qui est encore plus dramatique, et qui nous paralyse nos politiques, c'est qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on vend aux gens? Parce que bon, on va s'exciter comme d'habitude dans les années d'élection sur la sécurité, je sais pas, l'immigration, le chômage. Ça, ça reste les grands classiques. Mais c'est très court terme, ça. Mmh. Un court terme important, quand on n'a pas de travail et qu'on en cherche et qu'on n'en trouve pas, c'est quand même très problématique. Je dis pas qu'il faut ignorer ça. Mais je dis la politique et le politique devrait proposer une réflexion, à défaut d'avoir une solution, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Si le progrès matériel, si le productivisme n'est plus la solution, si on se contente de dire, ah ben, il faut consommer moins, produire moins, ça ne marchera pas, à mon avis, simplement parce que ça viole le socle même de toute notre société occidentale. Alors, qu'est-ce qu'on propose d'autre? Ben, j'en sais rien, bien sûr. Mais ce que je trouve dommageable, c'est que nos hommes politiques n'en savent rien non plus. Ça, c'est déjà un point. Ouais. Mais ils cherchent même pas à susciter la réflexion sur cette question pour se dire, bon, ben, OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Alors, justement, ça me permet de ramener la question qui arrivait après. Si ce n'est pas aux politiques de proposer des solutions, est-ce que ce n'est pas aux auteurs de science-fiction, anticipation, prospective, de le faire?
Alors, ça aussi, c'est une vaste question. L'utopie, alors je dis l'utopie, c'est un courant littéraire particulier. Mmh. En tout cas, proposer une solution, ben, c'est très difficile. C'est très difficile parce que probablement qu'il n'y a pas un seul être humain qui tout seul puisse avoir la réponse. Mmh. On parle beaucoup de la bêtise des foules, mais il y a quand même aussi une intelligence collective. Il faudrait c'est pas les outils d'ailleurs assez simples qui manquent, hein, n'importe quel wiki ferait l'affaire. Mmh. il faudrait qu'il soit médiatisé, il faudrait que les gens aient envie d'y participer, mais il faudrait essayer de collecter des réflexions communes là-dessus. On peut imaginer quelque chose, si je dois à tout prix donner une réponse là-dessus. D'ailleurs, j'aurais peut-être plus ou moins un livre là, sur ce thème-là.
Prochainement.
Je pense que on n'est pas loin, en dizaines d'années, on n'est pas loin d'une énorme révolution qui nous attend, qui est celle de la capacité de produire de façon autonome sans l'être humain. On a quoi? Déjà plus ou moins les voitures qui se commandent toutes seules. Mmh. Et on a plus ou moins des robots. Depuis longtemps, on a des bras robotisés dans les industries. Mais on a plus ou moins des robots qui ressemblent à des humains. Ils ne sont pas encore fonctionnels, ils n'ont pas de force. Mmh. Mais le jour où on arrivera à sortir l'être humain de la boucle de production, c'est-à-dire de pouvoir transporter toute la matière et la transporter et la transformer, alors là, il y aura une possibilité de se poser la question de savoir comment on s'organise tous, libérés de la productivité. Non pas qu'on lui tourne le dos, mais qu'elle puisse se faire sans nous. Ça, c'est l'enjeu de demain, je pense.
Et qu'on puisse faire autre chose. On passe au portrait chinois?
Bien sûr.
Rapidement. Dans toute la pop culture, parce que je sais que tu as une culture énorme.
J'aime beaucoup la pop culture.
Si tu devais avoir un sidekick, un ami, quelque chose comme ça, qui voudrais-tu à tes côtés?
Oh là là. Rick, de Rick et Morty.
Ah. Pourquoi?
Très dangereux de l'avoir à ses côtés, j'en serais probablement mort. Mmh. Parce qu'il incarne cette douleur existentielle que lui traite par le recul et la froideur, mais il incarne
l'alcoolisme un petit peu beaucoup même,
et cette capacité à accepter la réalité, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a rien et qu'on ferait mieux de regarder la télé. Mmh. C'est une de ses phrases, je la paraphrase mal, mais c'est une de ses phrases, une de ses quatre phrases, et sa capacité à finalement arriver à traiter ça avec de l'humour noir et de l'ironie. Voilà ce qui me plaît beaucoup.
D'accord.
Si je devais en avoir un autre, je dirais BoJack Horseman, qui me plaît beaucoup aussi. Mmh. Qui est pareil, une autre figure un peu de nihiliste, moins.
Des gens désabusés et cyniques, quoi.
Oui, j'aime bien, j'aime bien ça. Oui.
On est extrêmement riche, on a beaucoup de pouvoir dans notre association, comme toutes les associations françaises. On te laisse la possibilité d'avoir un objet que tu pourras utiliser comme tu veux, comme bon te semble, pour le reste de ta vie.
Un objet imaginaire ou un objet réaliste?
Choisis. La question, c'est ce qui m'importe, c'est le pourquoi. Choisis l'objet, mais tu me dis pourquoi.
Ah, bien sûr. N'importe quel objet que je pourrais utiliser à loisir. Là, comme ça, je dirais presque, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui me vient, le cube cosmique des Marvel Comics. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec, c'est un outil de transformation de la réalité. Mm-hmm. Transformer la réalité, c'est quand même le propre du romancier. J'aimerais beaucoup avoir un cube cosmique. J'ai un stylo, un ordinateur, c'est tout. Mais j'aimerais bien ça. Super, ok. Non, mais c'est comme ça. C'est le. Oui, ok. Ben, c'est bien un plaisir.
Peu nautique dans l'imaginaire sur le 5.5. C'est un extrait de la BO de Weird Wars Rome. Alors, Weird Wars Rome, c'est un univers de jeux de rôle en fait pour Suede Savage Worlds. Et voilà, il y a des BO qui ont été faites. Celle-là, elle est signée Harry Mack pour certains univers. Et donc Weird Wars Rome. Ça se passe pendant la Rome antique où on incarne des légionnaires et on est confronté à des choses folk horror un petit peu notamment quand on va essayer de conquérir les tribus des peuplades dans l'Europe autour de soi et voilà qu'on est confronté aux mythologies, ils se défendent avec un peu leur légende, etc. Et aussi ça permet d'introduire l'émission qui va suivre dans 1 minute, 2 minutes sur le 101.5, les voix du scénarium avec ce soir une partie de Metal Adventures, donc un jeu signé Arnaud QD dont on a déjà parlé dans cette association, un jeu de rôle de pirate de l'espace. Et justement, imaginez, on est en train de travailler en ce moment sur une deuxième édition éventuelle de ce qu'on avait appelé le Lazarfest, petit événement jeu de rôle, et on espère qu'on recevra Arnaud. Et donc, on aura probablement une thématique piraterie sur cette deuxième édition de notre festival du jeu de rôle. Quelques trucs à annoncer dans l'agenda, c'est premier plan dans 2 semaines. Et cette année, il y a une sélection film de genre. Ils ont appelé ça Vertige. Avec une dizaine de films, dont le prochain Bertrand Mandico qui me hype bien. Moi. Bon, ça se présente un peu comme un truc de fantasy, une histoire de sorcière et tout, mais avec son style très particulier. Ce sera son deuxième long métrage. J'avais passé le premier, Les Enfants Sauvages, déjà au festival. Ça a l'air de ressembler, je sais pas, à du Kenneth Anger un peu. Bon, c'est quelqu'un qui a fait des vidéoclips pour M83, des choses comme ça, donc avec un visuel très particulier. Il y aura aussi quelques vieux polars, notamment des vieux navets français, un avec Francis Huster et un tiré signé Jean-Marie Pallardy, qui est un monsieur qui a fait beaucoup de films érotiques. Donc voilà, premier plan, va s'encanailler dans quelques semaines. Enfin, c'est toute une infime partie de leur programmation, mais moi, ça me dit bien. Et ben, on laisse la place aux voix du Scénarium sur Radio G. Rendez-vous dans deux semaines, donc avec l'interview de responsable éditorial des éditions Carnage.
Radio-g.fr. Le Scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du Scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré.